Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec les sorties du 1er novembre. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Et bonjour Tiphaine.
Et bonjour.
C'est le retour.
Et oui, le retour des sorties ciné.
Et tout à fait, il y a beaucoup, beaucoup de sorties ciné. Hein. Cette semaine, je vais dire qu'il y a au moins 8 films, tous différents les uns que les autres, qui sont sortis au cinéma. Alors nouveaux, hein, pas les reprises, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de reprises. Et après, il y a des documentaires aussi. Mais là, je parle de films fiction. Et il y a le choix. Alors, on vous a parlé cette semaine de Flo, le biopic sur Florence Artaud, qui me tenait vraiment à cœur. Et j'espère que vous avez pu vous rendre au cinéma, parce que ce mercredi 1er novembre, c'était la sortie du très beau film Flo, aussi bien par ses paysages que par la liberté, par l'incroyable interprétation de Stéphane Caillard et Alexis Michalik, que je trouve excellent en Olivier de Carsozon. On vous en a parlé dans un spécial Flo, Cinéflo, que vous pouvez retrouver en podcast sur notre application ou sur notre site internet. Alors là, je vais changer, je vais vous parler de 4 autres films qui sont sortis aussi ce 1er novembre. On va commencer par Le Garçon et le Héron. Et Le Garçon et le Héron, c'est le réalisateur très attendu, Hayao Miyazaki. Ça faisait 9 ans et demi, 10 ans qu'on attendait...
Oui, je crois que le dernier, c'était Le Vent se lève.
C'est ça. Et on attendait avec impatience. Et je vais laisser Tiphaine vous dire de quoi ça parle.
Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où il a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Alors, si je peux faire une petite remarque, ça a l'air d'être du pur Miyazaki dans les fonds et dans le texte, pour
oui,
le coup.
Tout à fait. Tout à fait. C'est son univers, c'est sa façon de voir les choses, d'imaginer en fait ce côté philosophique et métaphorique d'un monde complètement différent, comme il a pu nous montrer dans d'autres œuvres, avec des personnages. Tous différents les uns des autres, aussi bien les réels que les imaginaires, ceux dont les monstres, les personnages qui ont une qui prennent vie et qui nous emmènent dans un monde complètement je dirais assez sombre et en même temps avec beaucoup de lumière, avec beaucoup d'esprit féminisme. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé une touche féministe plus forte encore que les précédents. Alors, il y a ce personnage Maito Maki qui a malheureusement perdu sa maman et qui se retrouve à vivre parce que il y a la guerre qui se passe. Ah oui. Donc il faut partir de Tokyo et partir dans les campagnes, comme on faisait à l'époque, se réfugier. Et là, il arrive dans un endroit, il retrouve la sœur de sa maman, qui lui dit, je vais être ta nouvelle maman. Donc voilà, il y a son papa qui est là, il doit partir, il a beaucoup de choses à faire, il est entrepreneur, et on voit à un moment d'ailleurs qu'il fait des cockpits pour les avions de guerre. Donc les avions de chasse.
On retrouve toujours l'amour de Miyazaki pour
les
avions.
Oui, tout à fait. Il y a un petit clin d'œil, mais il y est quand même. Et c'est vrai que voilà, il y a ce côté-là. Et puis, il va se retrouver nez à nez avec un héron au début qui, comme le dit sa tante, ne vient jamais aussi près. Et là, il frôle carrément. Et il va se passer que le héron va lui parler. Alors, ce qui est vraiment bizarre, parce que lui, il comprend pas du tout, et il voit ce héron qui lui parle et qui lui dit que sa maman est toujours en vie. et que pour la découvrir, il faut qu'il le suive. Mais ce héron est malicieux et en même temps manipulateur. Il a un côté, il a un maître, il répond à ce maître et il est fourbe. Il est très fourbe. Et voilà, c'est vraiment le double côté aussi des personnages qu'ont ceux de Miyazaki.
Ouais, puis on retrouve, c'est vrai qu'il aime beaucoup ça. Japonais aussi, le côté yokai, ça me rappelle un peu dans certains visuels, ça m'a un peu fait penser au Voyage de Chihiro par moment, mais parce qu'il y a le côté très très yokai surtout en fait.
Ouais, alors non, plus le vent se lève que oui, le Voyage de Chihiro, puisque du coup, il y a une passerelle avec le vent se lève.
Okay.
Ou d'autres films de Miyazaki, et c'est pour ça que beaucoup disent que c'est peut-être le dernier.
Oui, mais on dit ça depuis le Voyage de Chihiro, donc.
Oui, mais bon, voilà, c'est peut-être. Mais c'est vrai que bon, on voit son œuvre et on voit la densité aussi des personnages. Et je voudrais parler des personnages qui m'ont beaucoup touchée. C'est les vieilles dames, c'est les grands-mères qui sont toujours là. Elles sont sept. Elles sont au nombre de sept et elles sont très curieuses et elles discutent beaucoup sur les légendes. Attention, il faut pas aller dans cette tour. Il y a une tour assez sombre qui est fermée, qui est condamnée même. Toutes les entrées sont condamnées et pourtant, avec le héron, il va pouvoir rentrer et voir un monde complètement différent où il va se retrouver devant des personnages, je ne dis pas ce qui va se passer, mais il va se retrouver devant des personnages qui, va y avoir une passerelle de temps. Et à savoir à quel moment on est, à quelle période, et surtout les prénoms qui vont être utilisés correspondent à d'autres qui sont dans le réel. Donc voilà, il y a vraiment ces passages-là. Et en plus, on lui dit qu'il y a que sa famille, que les membres de sa famille qui peuvent rentrer en contact avec ce monde-là, passer et entendre la voix du héron ou la voix des autres petits personnages autour, puisque les autres n'entendent rien. Ils n'ont pas cet appel. Et c'est vraiment... Moi, je trouve qu'il y a... C'est magnifique avec l'eau. Il y a juste un jeu avec l'eau.
C'est la façon dont
il anime vraiment très fort.
Les éléments, c'est très, très beau à chaque fois. On le voit avec la terre dans Le Vent se lève. L'eau, on l'a vu dans Ponyo aussi.
Mais là, l'eau, elle est encore plus présente. Le feu aussi. Le feu est énormément présent et apporte aussi une réponse à Mahito. Donc non, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et il y a cet oncle justement qui avait en amour cette tour et qui l'a élevée et qui a fait des choses. Mais pourquoi cette tour est importante, sur quoi elle a été construite, eh bien vous le découvrirez en allant voir le garçon et le héron. J'ai vos avis. Ils sont assez mitigés. Il y a des personnes qui ont beaucoup aimé, il y en a d'autres qui ont trouvé le film un peu long. Et c'est vrai que si on avait un petit peu coupé, peut-être que ça aurait été plus digeste pour les plus jeunes. Pour nous, voilà, ça passe. Et puis il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de... Mais on va vous écouter.
Je dirais qu'il est un peu compliqué à comprendre. Je pense pas qu'il soit vraiment adapté pour les enfants, ça c'est sûr. Après Miyazaki, ça reste quand même des œuvres qui sont, on va dire... très importante même dans la culture générale, que ce soit française ou japonaise. Mais c'est vrai que moi je sais que je pense que je vais avoir besoin de le voir une deuxième fois pour mieux le comprendre, parce que là on s'attarde quand même vachement sur tout ce qui est dessin, essayer de faire des rapports avec les autres Ghibli. Mais c'est vrai que il est très beau sinon.
Voilà.
Vous pouvez me donner votre prénom?
Alors moi c'est Clem.
Bien.
Bien.
Et vous, monsieur? Oui, c'était assez intéressant. Je m'attendais pas du tout à ça, j'avais pas trop regardé les bandes annonces. Et puis, très magique, je crois que c'est son dernier d'ailleurs, non? Hayao Miyazaki, donc non, c'était fabuleux, c'est chouette dans les enfants.
Merci. Je pourrais avoir le prénom et l'âge de votre enfant?
Oui, alors Quentin et Samuel, ils ont 10 et 8 ans.
Franchement, il était sympa, bon, un peu glauque à certains moments, mais j'ai bien aimé. Après, on retrouve bien la patte de Miyazaki dessus. Franchement, j'ai adoré.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom?
Ingrid.
C'était très bien. C'est bien du Miyazaki, avec tout l'onérisme. Voilà.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom?
Marie-Ange.
Il était super. C'est le moins triste que j'ai vu du studio Ghibli. Voilà. Et il était très bien.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom?
Cassandre, je dois dire le nom de famille aussi ?
Non, non, juste Cassandre.
Bah, c'est Cassandre.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 15 ans.
J'ai oublié de dire qu'on a été voir le film en avant-première au Cégère Blagnac. La salle était comble. Il y avait vraiment beaucoup de monde et voilà, il y a des personnes qui sont passées et qui m'ont dit non, je parlerai pas, je suis trop encore dans l'atmosphère de Miyazaki, ça, je veux garder ce côté-là. Donc voilà, ce que je respecte totalement hein. Quand je vous demande votre avis, vous vous sentez pas obligé de répondre si vous n'avez pas envie. Au contraire, il faut que ce soit spontané et c'est vrai que c'est à chaud quand le film se finit et donc l'émotion est encore là, est palpable, mais c'est justement là où c'est le plus intéressant.
Mais surtout les films de Miyazaki, oui, même quand t'as le générique, l'univers reste encore. Enfin, pour moi, les génériques de fin font autant partie du film. Il y en a un qui m'avait marqué beaucoup, c'était Le Château dans le ciel, où vraiment c'est le film où je reste à regarder le générique quoi jusqu'à la fin, parce que c'est, on a envie de rester dans ces univers quoi. C'est pas enfin, bref, ouais, Miyazaki, c'est mon enfance, donc je peux pas être objective.
En tout cas, c'est un très beau film, voilà, d'animation. Il a fait le job. Après, c'est vrai que on se confond un peu dans l'univers du bas et pas celui du haut. Mais c'est tout ce que je vous dirais parce que ce serait gâcher votre plaisir et surtout votre découverte de ce monde incroyable du film Le Garçon et le Héron, parce que je trouve que quand même les couleurs sont très belles, l'animation est très bien faite, même si on peut revenir sur le scénario, eh bien il y a cette patte qu'on ne lui enlèvera pas et qui fait toute la beauté des films de Miyazaki.
Maito.
Maman.
Sauve-moi. Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman.
Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir.
Maito, sauve-moi!
Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts.
Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde.
Mais toi, d'où tu viens ?
Cette mer, ici-bas, est maudite.
Restez vigilants. Et unissez vos forces.
Maito ! Maito !
Maito, je suis à la recherche de mon successeur.
C'est toi ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Sauve-toi, Maito !
Dans mon monde, il reste tant de choses à faire. Maito, accepterais-tu de continuer mon œuvre ?
Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est le Théorème de Marguerite. Et j'ai été le découvrir au Pathé Wilson. J'en sors justement. Et c'est vrai que c'est très poétique, très enlevé. Et très bien amené par la réalisatrice Anna Novion. De quoi ça parle, Tiffen ?
L'avenir de Marguerite, brillante élève en mathématiques à l'ENS, semble tout tracé. Seule fille de sa promo, elle termine une thèse qu'elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l'édifice s'effondre. Marguerite décide de tout quitter pour tout recommencer.
C'est ça, c'est une matheuse. Ce film peut te donner envie d'aimer les maths, même si tu ne comprends absolument rien des formules qu'elle va noircir, parce que c'est le cas de le dire, elle noircit toutes des feuilles, des tableaux à craie, même des endroits où on penserait jamais pouvoir écrire des formules de mathématiques, et elle est vraiment dans ce monde, et il y a vraiment cet effet-là, à un moment donné, il y a la réalisatrice qui nous fait on voit le visage de Marguerite, qui est jouée incroyablement par Ella Rumpf. Et en fait, on voit le visage de Marguerite et tout autour, les formules qui prennent vie. Donc c'est vraiment assez, et ça l'englobe en fait. Ça fait comme si c'était une couverture. Les formules de mathématiques sont la couverture du visage, transparente bien sûr, du visage de Ella Rumpf. Et c'est vraiment très bien fait. C'est deux ou trois fois dans le film, si je me souviens bien. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là parce que ça montre en fait que son esprit fusionne totalement avec les mathématiques et qu'elle est habitée par ces mathématiques. Et c'est vrai qu'on a envie de comprendre ce qui a marqué sur ce foutu tableau et de se dire « Ah ouais, j'ai compris. Ah oui, c'est là où elle veut en venir. » Mais malheureusement, moi qui suis nulle en maths et qui l'ai toujours été et qui refuse d'apprendre les fractions, les machins comme ça parce que ça m'horripile, eh bien moi, je n'y ai pas trouvé mon compte par rapport aux maths. Mais la poésie qui est mise dedans, l'accès aux mathématiques m'a donné cette envie de découvrir les maths d'une certaine manière, mais de la manière de Marguerite, hein. C'est vraiment ça, parce que elle est dans un monde complètement différent. Elle a pas beaucoup de d'atomes sociaux. En fait, elle a autour d'elle, voilà, les gens comme c'est une première de la classe, hein. Eh bien, elle vit dans son monde et donc la sociabilité n'est pas son point fort. Et elle rejette justement les gens et elle a peur que les gens la trahissent, que les gens se moquent d'elle, la voient différemment, alors que bah c'est juste parce qu'elle aime les maths et qu'elle est elle a la passion pour les mathématiques. Voilà, c'est ça. C'est une passion comme on pourrait avoir la passion pour le cinéma, comme on pourrait avoir la passion pour un sport. Eh bien, elle a la passion des mathématiques et elle vit mathématiques et elle parle mathématiques et en fait, elle prend un plaisir fou à être dans ces mathématiques jusqu'à ce que, à un moment donné, eh bien, il y a eu cette erreur. Et cette erreur, elle est pas due, vous verrez, mais c'est pas la seule responsable. En fait, il y a son mentor, celui qui est son directeur de thèse, qui est Laurent Werner, qui est joué par Jean-Pierre Darroussin. Et tu t'énerves un peu contre lui, parce que contre le personnage, hein, parce que l'acteur joue incroyablement. Mais tu te dis, mon Dieu, mais où il veut en venir ? Est-ce qu'il y a une part de jalousie par rapport au fait qu'elle arrive mieux à comprendre et peut-être à découvrir un théorème que lui recherche depuis Mathusalem, qu'il n'arrive pas à trouver, et qu'elle, fraîche de ses 19 ans, eh bien, elle va décortiquer et trouver la réponse à la question si elle cherche encore plus. Seulement, vu qu'elle est pas très loin de la réalité et des choses, eh bien, il arrête de s'occuper d'elle et ce qui lui fait faire un faux pas de côté. Et en plus, il va avoir un autre apprenti, Julien Frison, qui lui aussi va faire sa thèse, qui est le rôle de Lucas, qui est joué par Julien Frison. Et en fait, ces deux, Marguerite et Lucas, vont se retrouver. Au début, vont être, je vais pas dire adversaires, je vais pas dire concurrents non plus, je vais dire que les atomes crochus n'y sont pas. Lui, il a ce côté aussi de passion avec la musique. Il fait du trombone et il fait partie d'un groupe et du coup un orchestre plutôt. Et du coup voilà, il a ce côté sociabilisation qu'elle n'a pas. Et c'est peut-être ça aussi qu'elle se dit, je veux pas me rapprocher de lui parce que j'ai peur. Et puis en plus, comme ils font à peu près la même thèse, elle a peur aussi que il lui fasse un petit dans le dos. Et qui lui pique, et c'est ce qu'on a peur tout le long du film. Mais petit à petit, voilà, elle va se rapprocher en s'éloignant des maths, et en rencontrant une certaine Noah qui est jouée par Sonia Boni et qui a un peu sa bouffée d'air, qui lui permet de découvrir un monde à côté. Si elle est passionnée par les maths, Noah, elle est passionnée par la danse et donnerait tout pour la danse. Et c'est vrai qu'elle se retrouve et elle la regarde, elle se dit oh tiens t'es et lui dit à un moment elle lui dit oui bâton on te regarde et tout oui mais toi est-ce que tu regardes les garçons Ben non. Eh ben, si tu les regardais, peut-être qu'ils te regarderaient. Donc, bon, elle s'y prend mal. Hein. Au début, c'est vraiment les années crush. Et puis, elle essaye de danser. Elle essaye de sentir autrement, de sentir femme, tout en gardant son côté matheuse et première de la classe, mais en défaisant un peu ses cheveux, en essayant de rouler des épaules, en essayant de bouger un peu les hanches. D'ailleurs, malheureusement, ça va lui porter préjudice pour un travail qu'elle avait trouvé. Mais bon, au moins, ça lui a ouvert des portes et elle va se mettre. Un jour, elle va arriver dans un endroit et bon, ils payent le loyer et ils sont en retard. Et là, elle voit un jeu. Ça s'appelle le Mahjong. Et elle va regarder et lui, le responsable, là, Monsieur Kong, qui est joué par Maurice Cheng, lui dit oui, bah c'est le Mahjong et tout, on joue. Et elle va se dire oh tiens, c'est intéressant. Et grâce au Mahjong, grâce au fait qu'elle va exceller au Mahjong, qu'elle va plumer certaines personnes, ça va l'aider à vivre d'ailleurs, et à pouvoir rester dans l'appartement. Elle va devenir d'ailleurs la coqueluche du quartier, et on va dire que c'est une bête au Mahjong. Et grâce au Mahjong, elle va trouver la solution pour les maths qui étaient bloqués, et elle va reprendre contact avec Lucas, et petit à petit, en se faisant la passion des maths, eh bien, il y a une autre ouverture. Et cette ouverture, eh bien, c'est l'amour qui est tout en poésie. Et je trouve que entre ces deux personnages, Marguerite et Lucas, il y a vraiment ce côté, voilà, les maths, la passion des maths et les non-dits qui sont qu'on essaye de transformer avec justement des formules de mathématiques. Et ces formules de mathématiques pourraient se refléter comme des poèmes qu'on dirait à la personne qu'on aime. Et c'est ça qui est beau et qui donne envie de faire des mathématiques. C'est vraiment ce côté-là. Et on va la voir progresser, même si Laurent Werner va lui mettre des bâtons dans les roues. Et je voudrais parler d'un autre personnage qui est le rôle de Suzanne, qui est la mère de Marguerite, qui est jouée par Clotilde Courau, qui est un peu effacée au début. On l'entend qu'au téléphone. Elle essaye de prendre contact. Elle est professeure de mathématiques et sa fille, voilà, l'a aidée quand elle était plus jeune, puisque c'est depuis l'âge de 11 ans qu'elle excelle en mathématiques. Donc, on sent une grande connivence entre les deux et aussi une blessure. Et on se demande, voilà, si ça va réussir. Et quand la mère vient la voir à Paris, elle est là pour lui dire retourne faire tes études, reprends ta thèse ou change de sujet et fais quelque chose d'autre. Et elle lui dit mais non, t'as pas compris maman. Moi j'arrête et tout jusqu'au moment où je dis avec le Mahjong, elle va essayer de trouver la réponse au théorème avec en alliance avec Lucas. Et moi, je trouve que ce film est vraiment bien amené. Je trouve qu'il y a énormément de poésie et il y a cet amour des mathématiques et aussi le côté que la différence peut être une force et que en ouvrant son cœur et en ouvrant ses yeux, on peut s'apercevoir que autour de nous, eh bien, il n'y a pas que des gens qui veulent te trahir ou faire des petits dans le dos. Il y a des gens aussi qui sont là pour t'aider et pour te soutenir. Même si toi, tu leur as fermé la porte, ils vont passer par la fenêtre pour arriver à te faire comprendre que, eh bien, la vie, c'est ça. C'est aussi accepter que des gens peuvent t'aider à avancer. Voilà. Et je trouve que c'est un très beau film. Et d'ailleurs, on a vos retours.
Très sensible, émouvant, personnel. Je me suis régalé.
Merci beaucoup. Je pourrais avoir votre prime?
Bertrand.
Que j'ai adoré. J'ai trouvé ça en même temps passionnant, même si je ne suis pas du tout matheux. Je trouvais que c'était très bien interprété et que c'était en même temps émouvant parce que le personnage principal, j'ai l'impression qu'il fait un peu Asperger. Et je me dis qu'il a gagné en humanité au fur et à mesure et que j'ai trouvé ça très beau. C'est une belle parabole. Je suis soignant et je m'occupe de personnes qui ont ce genre de syndrome. Et ça m'a donné beaucoup d'émotions.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom?
Christophe.
C'est un film qui est bien fait sur un sujet qui est pas facile parce que parler des mathématiques dans un objectif grand public, c'est pas du tout évident. Donc là, la réalisatrice arrive à faire quelque chose qui se tient bien, je trouve. Les acteurs sont bons. Bon, Jean-Pierre Darroussin, évidemment, il est bon. C'est l'acteur qu'on connaît. Les deux acteurs plus jeunes là sont vraiment convaincants. Puis ça se termine bien, donc ça c'est assez, c'est évidemment assez satisfaisant. C'est, de ce point de vue-là, la trajectoire du film est assez classique, hein, c'est-à-dire bon, on rate au début, on réussit à la fin.
Oui.
Mais c'est intéressant. Ça fait aussi connaître le Mahjong. Ce qui est pas inutile. Donc j'ai passé un bon moment.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
René.
Ah, comme je le disais, hein, vous pouvez le retrouver au Pathé Wilson. Il y a plusieurs séances. Je pense qu'il est aussi au CGR Blagnac, si je me trompe pas. Et puis dans d'autres salles. Mais n'hésitez pas à aller voir ce très beau film.
Je m'appelle Marguerite Hoffmann, j'ai 25 ans et je suis en dernière année de thèse de mathématiques à l'UNS. La conjecture de Goldbach, c'est l'un des problèmes non résolus les plus importants en mathématiques.
Ça va? Pas trop stressée, ma fille chérie?
Je suis en pleine relecture, là. J'ai pas compris ton calcul de la constante C. Tu peux pas chasser K, N et delta simultanément?
En effet, ça invalide tout votre raisonnement.
Votre départ précipité a fait sensation. En ne terminant pas votre thèse, l'école va vous réclamer le remboursement de vos 4 années de salaire.
Je n'en reviendrai pas sur ma décision.
T'apprends pas le catalogue par cœur quand même?
Si.
Vous n'avez pas payé le loyer sur ma scie, hein.
Comment tu comptes réunir 1000 euros avant samedi? Major.
Des parties, je prends 20%.
Majon, tu peux comprendre que j'ai peur pour toi, que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé. Tu t'inquiéteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir.
Faut être solide pour travailler sur Goldbach. C'est un problème labyrinthique.
Je rêve, ça veut dire n'importe quoi, là. Le dernier mouvement.
C'est une nouvelle méthode, ça n'a jamais été fait.
Il est magnifique. Il faut absolument que je te le montre.
Le troisième film dont je vais vous parler, c'est L'Enlèvement. Et ce film, je l'ai vu au festival Cannes à Toulouse, au Pathé Wilson. Et oui, pendant le festival de Cannes, on a cette occasion incroyable que 12 films du festival passe en même temps à Toulouse. Je vous dis pas de bêtises, 12 films du festival de Cannes qui sont jugés, où il va y avoir des récompenses et autres, et certains ont obtenu des récompenses. Et c'est vrai que de les voir en avant-première, c'est que du bonheur. Alors c'est dans 4 autres villes, grandes villes de France, mais à Toulouse, on a cette chance, au Pathé Wilson, de les voir en avant-première. Et c'est ce qui s'est passé pour L'Enlèvement, qui est un film somptueux du grand, du merveilleux Marco Bellocchio. Tiffaine, tu es circonscrite, tu n'oses pas dire le synopsis, mais vas-y, je t'écoute.
J'attendais ton signal. En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé, et la loi pontificale est indiscutable, il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo, bouleversés, vont tout faire pour récupérer leur fils. Soutenus par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l'Église et le pape refusent de rendre l'enfant pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant.
C'est assez fou, c'est tiré de faits réels. Ça s'est vraiment passé. C'est l'histoire de l'Italie est assez impressionnante. C'est vrai que Marco Bellocchio est très connu pour ça, pour nous mettre en avant des choses comme dernièrement avec une série merveilleuse, si vous l'avez pas vue, c'est Esterno Notte sur Arte, qui est sublime, sur les brigades du tigre, hein, un peu ces choses-là qui sont cachées, qui sont incroyables. Et là, il nous offre un film sur un événement que moi je ne connaissais pas du tout, c'est les enlèvements des enfants juifs qu'on disait avoir été baptisés à un moment donné et donc qui devaient recevoir une éducation catholique. Et là, ce qui est assez fou, c'est que on dit qu'il a été baptisé par quelqu'un, machin, mais en fait, ne serait-ce que d'apposer un peu d'eau d'une personne catholique, même qui n'est pas prêtre, qui n'est pas diacre, qui n'est pas cardinal, qui n'est pas pape, c'est vraiment un acte de baptême. À cette époque-là, bien sûr, hein. Et juste faire ça, le signe de croix, et c'était, voilà, l'enfant est baptisé, une personne l'a baptisé, l'a dit qu'elle avait fait les choses, et donc cet enfant est enlevé à sa famille, par les autorités. C'est ça qui est complètement fou. Il y a les autorités qui viennent dans cette famille et qui disent « On vous enlève votre fils est catholique, il a été baptisé, donc il ne peut pas rester avec vous et on va l'emmener. » Et il se retrouve, ce petit jeune qui est joué par Enea Sala, donc c'est le rôle d'Edgardo Mortara enfant. Il est poignant, ce gamin. Il est tellement perdu. Il arrive dans un centre, en fait, où il y a d'autres enfants de son âge et même plus grands qui ont été enlevés, pareil que lui, aux familles en disant, il est catholique et donc vous pouvez pas l'élever dans votre religion. Et donc c'est le pape qui avait ses enfants. Qui avait ces petits enfants qu'il endoctrinait au catholicisme, ce qui est assez hallucinant. Ils étaient vraiment dans cette optique-là. Alors au début, ils se rebellaient, ils ne voulaient pas, ils ne suivaient pas. Et puis petit à petit, c'est aussi un effet de masse, un effet de groupe. Et comme il y en a qui suivaient la marche, petit à petit, il le faisait. Et quand son père, qui est joué par Fausto Russo Alesi, donc le rôle de Momojo Mortara, vient le voir, il réagit en disant « Je suis bien ici, laissez-moi. Un petit bonhomme, un petit gamin, il a 7 ans. Et il dit à ses parents « Laissez-moi, je veux continuer. » Et en fait, il y a la personne, un préposé catholique qui est là et qui assiste à cette réunion. Et on se dit, si le gamin dit quelque chose qu'il faut pas, il va être réprimandé ou autre. Et en fait, devant son père, il tient bon. Mais quand sa mère, qui est jouée par Barbara Ronchi, et je peux vous dire que moi, j'ai versé des larmes et des larmes, c'est le rôle de Mariana Mortara. Quand elle arrive et quand elle retrouve son fils, vous savez, l'amour d'une mère, ça ne se commande pas. Et le gamin, il ressent cet amour. Même si il se refuse, c'est une scène tellement bouleversante. Et Enea Sala et Barbara Onchi nous offrent un moment d'anthologie. On est tellement serré, on est tellement là, on se dit mais... On veut pas que notre propre enfant nous soit enlevé. Donc on comprend la détresse de cette femme et Barbara Ronchi le joue merveilleusement. Elle a cette tristesse, cette incompréhension et cette douleur de mère que son propre enfant, le fruit de ses entrailles, lui soit enlevé, quoi. Tout ça parce que une femme l'a baptisé, lui a mis un peu d'eau sur la tête. Et il est devenu catholique. Et petit à petit, on va voir ce jeune Edgardo grandir et devenir Edgardo Mortara adulte. Et il est joué aussi brillamment par Leonardo Maltese. Et on sent toute la fragilité de ce gamin. Parce qu'il y a l'endoctrinement, oui, des catholiques. Mais il y a aussi cette douleur en lui, cette part d'incompréhension. Et il va même à faire quelque chose qui est assez fou en rendant visite à sa famille. Sa famille est juive. Lui, il a été l'élever comme catholique, et il va faire quelque chose qu'il ne doit pas faire parce que il est vraiment endoctriné. Et ça, c'est super bien fait et incroyablement joué. C'est vrai que les interprétations de ce film sont hallucinantes, et encore plus celles du pape. Alors là, le pape Paolo Pierobon, il est horrible. Il est vraiment horrible. Et tu te dis, mais mince, il y avait vraiment une personne comme ça. Et le cardinal aussi, Filippo Timi, qui est sanglant, tu te dis, c'est pas possible de voir ça. Et pourtant, si, malheureusement, ça a existé. Et je tire mon chapeau à Marco Bellocchio de nous avoir ouvert les yeux sur cette période et de nous avoir montré un pan du passé de l'Italie complètement oublié. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire.
Je trouve que c'est un très bon film. C'est très émouvant. Et j'aime beaucoup le cinéma italien. Donc, voilà, je suis très agréablement surprise.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Marie.
Je suis encore dedans.
Oui.
J'ai trouvé ça très très soutenu, une période, enfin une histoire que je connaissais pas du tout, donc c'était à la fois une découverte et une histoire qui est maintenue jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à la dernière image, dans un suspense incroyable, alors que ça aurait pu être un film historique, point. Là, il y a en plus un suspense, de l'émotion, enfin voilà, c'est vraiment très très chouette, les comédiens sont prenants et moi, j'ai passé un très très bon moment.
Merci beaucoup, je pourrais avoir votre prénom ?
Karine.
Moi j'ai plutôt bien aimé, je m'y connais pas trop, tout ce qui est question de religion, etc. Donc je pense que c'est basé sur des événements historiques que je connaissais pas, donc j'ai beaucoup aimé apprendre ça et j'ai beaucoup aimé le film.
Merci, je pourrais avoir votre prénom ?
Arthur.
Comme d'habitude, Bellocchio fait une excellente mise en scène et c'est ça qui est touchant. D'autre côté, je ne comprends pas pourquoi il a choisi de prendre ce roman, de faire un roman comme ça, évidemment contre les clergés, ça c'est très bien, mais en fait j'attendais quelque chose un peu plus différent, surtout après avoir fait des films sur la question de Aldo Moro, dans lequel il a fait aussi une série qu'on a pu voir, Eterna Notte, etc. Alors bon, je suis un peu surpris parce que j'attendais pas.
Ça change,
c'est-à-dire, mais quand on pense in Pusintasca, que c'est un film, que c'est le premier film que j'ai vu de lui, et peut-être c'est son premier film. On voit sa trajectoire plutôt très politique. On ne peut pas dire que ça, c'est pas un film politique, parce que c'est clair.
Oui.
C'est contre les clergés. On sait bien que les clergés, c'est une des forces qui permet de tenir le système à sa place. Bon, tout ça, on le sait. Mais voilà, c'est un film classique, un excellent mise en scène, tout est très correct, mais dans le fond, pour moi, le problème, c'est que c'est un film de la RAI, vous savez, c'est-à-dire, aujourd'hui, tout dépend de la télévision. Alors, bon, et si c'est pas à la RAI, ça serait une série Netflix, que ça serait encore pire. Alors, voilà. En fait, je suis un peu déçu dans le sens de que il paraît qu'il faut se soumettre toujours au système industriel dans lequel on vit. Mais bon, là, ça serait trop long de parler de tout ça, parce que un film, on peut l'approcher du point de vue économique, esthétique, etc. Et là, il me faudrait 5 heures pour en parler.
Est-ce que je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît?
Manuel.
C'était très très beau. C'est vraiment un film magnifique. Très émouvant et en plus qui est en rapport avec l'histoire de l'Italie. Donc c'est vraiment un film, enfin moi, qui m'a beaucoup touchée.
La même chose, voilà, je trouvais que c'était. Et des plans magnifiques aussi, voilà. C'était très touchant comme histoire.
Et c'est aussi esthétiquement très beau. C'est vraiment, ça allie aussi des références à la peinture, à l'opéra. Donc c'est un film, c'est une expérience esthétique aussi bouleversante.
Est-ce que je pourrais avoir votre prénom?
Nina.
Et vous?
Leonardo.
Vous pouvez retrouver ce film au Pathé Wilson. Et dans d'autres cinémas, j'en suis sûre, ne manquez pas ce très beau, ce merveilleux, ce sublime film de Marco Bellocchio, avec toute la patte du réalisateur, toute cette candeur de fresques historiques incroyables, et du début jusqu'à la fin, parce que oui, à un moment donné, eh bien, ça ne passe plus. Et le pouvoir du pape est remis en question. Et vous allez voir que le peuple va dire non, va se soulever et va y avoir des scènes mais oh, incroyables. Et je vous invite vraiment à découvrir ce film. Est-ce qu'on a la bande-annonce, Tiffaine?
Je ne l'ai pas trouvée en français.
Ah, bien voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, sur les sites de cinéma où vous trouverez la bande-annonce pour vous faire une idée. Comme moi, aller au cinéma.
À l'aveugle.
Sans voir la bande-annonce.
Les bandes-annonces,
à l'aveugle.
Vous pouvez les trouver de façon en italien, sous-titré français.
Voilà. Il n'y a pas de souci. Et faites-vous votre avis sur ce film et n'hésitez pas à nous faire un retour. Le dernier film que je vais aborder aujourd'hui, et c'est vraiment un coup de cœur. Je me demandais ce que ça allait donner, franchement. Et c'est le film complètement cramé du réalisateur Gilles Le Gardinier.
Depuis qu'il a perdu sa femme, Andrew Blake n'a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l'avait rencontré. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu. Pour rester au domaine de Beauvilliers, Blake se retrouve condamné à jouer les majordomes à laisser. Entre Madame Beauvilliers, la maîtresse des lieux au comportement aussi étrange que ses relations, Odile, la cuisinière au caractère bien trempé, Philippe, l'intendant un peu frappé qui vit en ermite au fond du parc, et Manon, la jeune femme de ménage dont le destin bascule, Blake découvre des gens aussi perdus que lui. Face à eux, dans cet endroit à part, cet homme qui n'attendait plus rien de la vie va être obligé de tout recommencer.
C'est adapté d'un roman, et c'est vrai que c'est assez fou, et c'est une bouffée d'air pur. C'est vraiment très drôle, enlevé. L'humour à l'anglaise, l'humour à la française, qui cohabitent. Et on adore. On adore rire dans la salle. On entend les rires fleurir à des endroits et d'autres. Même si tu as un petit sourire et que les autres rient, et que toi tu ris et que les autres ont un petit sourire, il y a vraiment cette connivence et ce jeu merveilleux de tous les acteurs. Je vais pas mentir. Il y a des interprétations sublimes. Mais c'est vrai que celui qui a la palme, c'est John Malkovich. Non, non, vous avez bien entendu. John Malkovich qui joue le rôle d'Andrew Blake. Et oui, c'est lui qui, après le décès de sa femme, veut retourner sur le passé et l'endroit où il l'a rencontré. Et cet endroit, voilà, c'est une demeure qui appartient à Nathalie Beauvilliers, qui est jouée par la somptueuse, par la magnifique Fanny Ardant. J'ai pas d'autres mots. Elle peut jouer un rôle sombre, elle peut jouer un rôle dur, elle peut jouer un rôle lumineux. Elle a toujours cette aura et ce charisme incroyable. Elle peut tout jouer et on le sait, c'est une grande dame du cinéma. Et là encore, eh bien, chapeau bas à Fanny Ardant. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi dans la distribution Émilie Desquennes. Et on adore Émilie Desquennes parce que au début, c'est la maîtresse de maison. Oui, oui. C'est celle qui dirige les autres employés de maison, qui les mène à la baguette. Et quand elle voit arriver Andrew Blake, eh bien, elle fait un amalgame. Elle croit qu'il est là pour postuler en tant qu'employée de maison et pour la seconder. Et petit à petit, elle s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Surtout quand il l'envoie dans ses 6 mètres en disant « Non mais attends, moi je viens me reposer et on me force à me lever à 6h30 du matin. La douche, elle est exécrable. C'est pas possible. Oui, la douche froide. Eh bien oui, il y a eu droit. Pour les employés de maison, c'est très drôle. Mais c'est... Enfin, je trouve que c'est vraiment très bien amené. Et ces deux personnages, si au début... où Émilie veut vraiment montrer que c'est elle la chef, que c'est elle. Et elle lui dit, vous êtes en période d'essai. Elle dit, vous pouvez rester sur le château, alors que normalement, les chambres d'hôtes ne sont pas ouvertes. Mais vous allez vous faire passer pour l'employé de maison. Aux yeux de Fanny Ardant, aux yeux de Philippe Bas qui joue Philippe Magnier, aux yeux de Manon qui est jouée superbement aussi par Eugénie Ancelin. Et d'autres personnes comme la très horrible, l'exécrable Madame Berlinier, qui est jouée magnifiquement par Christelle Hénon. La pauvre, c'est vrai qu'on la déteste dans le film, mais c'est que du bonheur. Et qu'est-ce qu'on rit ? Qu'est-ce qu'on rit ? C'est le mot juste. On rit. On est touché par ces personnages et on rit parce que il y a vraiment cette flemme. Cet humour british d'Andrew Bleck qui rencontre l'humour français de Philippe Magnier, de Philippe qui est joué incroyablement par Philippe Basse. Et Philippe Basse, eh ben, on l'a vu énormément dans des téléfilms, mais là, c'est vraiment un rôle à sa mesure et ça fait énormément plaisir de le voir, eh bien, donner la réplique à John Malkovich. Et il y a des scènes d'anthologie dans la maison de Philippe Bas quand il l'accueille et qu'il lui dit et qu'il essaye de répéter un dîner et que l'autre est grimé d'une certaine manière. Je ne vous dirai pas comment il est maquillé, mais franchement, tu ris, tu vois ça, tu fais, mais c'est pas possible d'être parti aussi bas. Et aussi leur première rencontre entre Philippe Magnier et Andrew Bleck. C'est peine-cu, trop fort, c'est vraiment excellent. Et avec un coup de fusil mémorable, et d'ailleurs, il y a beaucoup de blagues entre eux. Et petit à petit, même si ça avait mal débarré les relations, que ce soit entre Andrew Bleck et Odile, qui est jouée par Émilie Deakin, et Philippe Magnier, eh bien, il y a cette connivence. Il y a ce fait que eh bien Andrew Bleck apporte de la lumière, apporte des solutions à chaque personnage qui se sent un peu de côté, qui a des blessures cachées aussi bien chez tous les personnages, et lui il apporte ce petit rayon de soleil et un petit air de petit lutin qui hop. À chaque fois qu'il va aller voir une personne, eh bien, il va trouver des solutions, même si des fois, il met les pieds dans le plat. Et franchement, quand il donne des expressions françaises et qu'il se trompe, c'est du caviar, quoi. tu rigoles du début à la fin, tu passes un excellent moment, et ça fait du bien. Par les temps qui courent, un film comme ça fait du bien. Surtout que l'histoire est très belle, et que on a une chute très émouvante. Et oui, on verse sa larme aussi pendant le film. Parce que, je vous le disais, Fanny Ardant, elle est vraiment intense en émotion. Émilie Deakin aussi. Eugénie Ancelin aussi. Mais Philippe Bas aussi est très touchant. Ils sont tous touchants. Voilà, John Malkovich, c'est vraiment très fort. Et on a deux personnages aussi, Al Ginter et Anne Brion, qui jouent Richard Ward et Melissa Ward, qui sont du passé d'Andrew Bleck et qui viennent à un moment donné faire un truc vraiment sympa. Et en fait, Richard Ward en fait voir de toutes les couleurs en Andrew Bleck, en le voyant employé de maison. Il va pas gêner pour lui en mettre plein la vue. Et voilà. Et comme je vous parlais de Mademoiselle Berlinier, Mademoiselle Berlinier, elle est exécrable. Mais comme on dit, il y a un retour de bâton et ça va être très sympa aussi. Il a pas sa langue dans sa poche, Andrew Bleck. Et qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que... C'est très très drôle. C'est vraiment très drôle et attendrissant. Et bah, je suis pas la seule à le dire, hein, puisqu'on a vos retours.
Rafraîchissant, voilà. Très bien. Très bon film.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Samuel.
C'est un film génial. C'est très touchant. John Malkovich, il est extraordinaire. À voir absolument. Je conseille d'aller le voir. Il est vraiment super.
Ouais, je confirme.
Rien à dire.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Sandra.
J'ai bien aimé, tout simplement.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Annie. Eh bien, écoutez, il est très bien, il est super. Il est super, j'ai trouvé que c'était vraiment... Ça fait du bien pendant ces périodes troublées de voir un film comme ça. Et il a beaucoup d'humour, enfin, il y a beaucoup d'humour, hein. C'est super.
Merci, je pourrais avoir votre prénom ?
Marie.
Ah, j'ai beaucoup aimé, énormément aimé. Et alors, joué d'une façon merveilleuse.
Merci, je pourrais avoir votre prénom ?
Bernard.
Bonsoir à tous. Je ne sais quoi dire. Voilà, j'ai rigolé à des moments et j'ai ressenti des émotions, donc c'est agréable.
Voilà. Merci beaucoup. Je pourrais avoir votre prénom ?
Ellie.
J'ai adoré. Vous savez, en fait, j'ai lu ce livre plein de fois. Ça m'a fait rire. Et là, il a choisi. Les acteurs sont super. Enfin, je veux dire, c'est trop génial.
Merci. Cadeau de la vie. Merci. Oui, cadeau de la vie, je suis d'accord avec vous. Vous pouvez me donner votre prénom ?
Nathalie.
Moi j'ai adoré.
Ah, moi aussi. J'ai lu le livre, j'en ai lu plein de lui et j'ai pas du tout été dépaysée. Mais c'est, les personnages, je les imaginais pas comme ça, mais par contre, ça me donne envie de le relire. Voilà, mais c'est super. Moi j'ai adoré. L'humour anglais.
Joué. Très plein de finesse, d'élégance, des sentiments, on pleure, on rit, non c'est bien, on a adoré. Puis les images sont magnifiques.
Ah, moi j'aime beaucoup l'humour, cet humour extraordinaire.
C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Je pourrais avoir vos prénoms ?
Séverine.
Yvonique.
Je l'adorais, j'ai adoré parce que j'aime les deux acteurs et puis c'est un film qui... finalement pas seulement moment parce que je suis venue voir dernièrement des films qui étaient quand même moins drôles et celui-là j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs et voilà, c'est le genre de film qu'on peut voir quand on a besoin de se changer les idées, hein, je sais pas ce qu'ont pensé les autres mais
oui, tout à fait, oui.
Et une fin assez émouvante, bon voilà, c'est un très bon film.
Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît ?
Françoise.
N'hésitez pas comme moi à aller voir ce film au Pathé Wilson ou dans d'autres cinémas, parce que franchement, c'est une bouffée d'air pur, c'est la joie de vivre et c'est aussi beaucoup d'émotions. Tout réuni, l'humour et l'émotion, ça peut être qu'un véritable cadeau. Et beaucoup l'ont dit, c'est un cadeau de la vie.
L'entrée du personnel se fait par l'office. Plus loin.
Ah, et...
J'ai mis une annonce pour recruter un employé de maison.
Trop la classe. On dirait un British.
Je suis un British.
Oh, ça va pas être simple. Qui sait ce qu'il nous apportera ?
Ah ! Je cherchais du réseau.
Et moi, je fais de la broderie avec mes guibolles et je suis Miss France.
Vous n'êtes pas Miss France.
Vous savez, monsieur Steak, je suis bien content de plus être le seul homme ici. Elles sont quand même spéciales, ces dames.
Madame reçoit surtout dans ce salon, enfin lorsqu'elle recevait. Aujourd'hui, plus personne ne vient.
Faut toujours garder l'espoir, même si on n'y croit plus.
Tout le monde y croit, toi, le chat.
Ils font tout pour s'éviter.
Qu'est-ce qui se passe entre Odile et vous ?
Vous avez déjà été enceinte ?
Pas récemment, je l'avoue.
Vous pensez qu'il va revenir ?
Quelle chance de ma jardinée devant Monsieur Blake.
Je vous ai menti.
Madame !
Savez-vous pourquoi je suis ici, madame ?
Je vous cherche partout.
Une femme que j'admire beaucoup m'a dit un jour qu'il faut toujours garder l'espoir, même si on n'y croit plus. Si tu parles, je t'épile.
La dernière réplique qui dit « Si je te parle, je t'épile », eh bien, c'est au chat Mephisto. Et croyez-moi, s'il est sur l'affiche en grand, Mephisto, c'est qu'il a un rôle important, ce chat. Mine de rien, on rigole bien. Et il y a des repas de chats qui se transforment en autre chose. Mais ça, je vous laisserai la surprise et la détente de voir ce merveilleux film. Très drôle. D'ailleurs, j'en rigole encore en écoutant la bande-annonce. Rendez-vous au cinéma. C'était chaud devant ciné, les sorties du 1er novembre. Vous avez de quoi faire, hein, de sérieux films qui sont qui viennent de sortir au cinéma. Donc faites votre choix et rendez-vous au cinéma. I'll be here till the end of time. So you got to let me know.